La voix de l'autre, à la rencontre d'une personne extraordinaire. Bonjour chères auditrices et auditeurs. Aujourd'hui, la voix de l'autre est la voix de Laurence. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Laurence est maman de deux enfants. Son fils âgé de 12 ans est en classe de 5e au collège. Après un parcours long, souffrant et plein de questionnements, Laurence, vous avez appris que votre fils avait un TDAH et un trouble 10. Mais qu'est-ce que c'est que ces bestioles ? Alors, le TDAH est un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble neurobiologique caractérisé soit par un déficit de l'attention, soit par une hyperactivité et une impulsivité, mais le plus souvent par les deux. C'est un trouble neurodéveloppemental. Les troubles 10, quant à eux, sont aussi des troubles neurodéveloppementaux. Il y a plusieurs troubles 10. 10, ça s'écrit D-Y-S. Alors, il y a d'abord les troubles spécifiques des apprentissages scolaires, la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie. Il y a aussi le trouble spécifique du langage oral, comme la dysphasie. Et enfin, il y a un trouble développemental de la coordination, comme la dyspraxie. La dyspraxie, dont souffre votre fils, est un retard dans les apprentissages moteurs et dans la coordination des mouvements, en comparaison bien sûr avec les autres enfants du même âge. Ça s'exprime particulièrement notamment dans la motricité fine, l'écriture, une précipitation parfois dans les mouvements. Et on peut donc bien imaginer les impacts sur la scolarité. Laurence, pouvez-vous nous parler du parcours de votre fils avant d'avoir ces diagnostics ?
Alors un parcours difficile. En fait, dès son entrée à l'école, pour mon fils, ça a été très compliqué dès la petite section. Donc il a été tout de suite repéré comme étant un enfant très très agité. Alors un enfant gentil, hein, jamais vu comme un enfant provoquant par volonté, mais en tout cas un enfant en grande difficulté dans sa relation aux autres, un enfant qui gère très mal ses émotions et agité. Donc ça crée beaucoup de soucis à l'école dès l'entrée en maternelle. Ces difficultés sont allées crescendo, hein, maternelle, primaire, avec des apprentissages qui se passaient quand même relativement bien, parce qu'ils compensaient beaucoup. Donc c'est pour ça aussi, je pense que les diagnostics ont été faits un peu tardivement, parce qu'au niveau des résultats scolaires, proprement parlé, c'était plutôt bon. Mais des difficultés qu'on ne comprenait pas, et puis surtout des difficultés de comportement à l'école, toujours de plus en plus difficiles, qui le mettaient en souffrance à l'école, en souffrance avec ses camarades, et puis un rejet de l'école petit à petit, un rejet du travail scolaire et de l'école en elle-même. Et en fait, pendant notre fameux premier confinement, où on a dû faire l'école à la maison, là, on avait beaucoup d'exigences de la part de l'école, beaucoup de leçons, beaucoup de devoirs à rendre, et là, moi, je me suis vraiment arraché les cheveux. Je ne comprenais pas, en fait, ce que mon fils ne comprenait pas. J'ai constaté qu'il n'avait aucune autonomie, il ne pouvait pas travailler seul, il y a des choses qui... Il est très intelligent, donc c'est vrai que je ne comprenais pas pourquoi il y avait des choses simples qu'il n'arrivait pas à faire. Il y avait des erreurs qu'on ne comprenait pas, un manque d'attention, plus. Et ça créait des conflits, de la souffrance, un rejet du travail qui devenait vraiment ingérable. Et donc c'est pendant l'année de son CM2, tout ça. Et c'est là que je me suis dit quand même qu'il fallait que j'arrive à voir... que j'arrive à mieux comprendre. Et je me suis dit qu'il devait y avoir autre chose que... on ne savait pas ce qu'il y avait, mais je me disais que là, il y avait vraiment un fonctionnement qui était différent chez lui. Et c'est là que je me suis tournée, du coup, vers des spécialistes pour mieux comprendre. Donc l'idée des bilans, c'était pas de poser un diagnostic, parce que je ne pensais vraiment pas qu'il y aurait un diagnostic aussi clair derrière. Mais pour moi, c'était d'avoir des billes pour mieux comprendre mon enfant et comprendre comment il fonctionnait et mieux l'aider. Du coup, ça a été bilan... avec une neuropsychologue qui a déjà posé un peu les bases et une des prémices de diagnostic de dyspraxie et trouble de l'attention. Et tout ça, ça a été confirmé ensuite avec un bilan orthoptiste, bilan ergothérapie et pédopsie. Et pour effectivement, du coup, en cours de sixième, que les diagnostics soient bien posés. Donc sur de la dyspraxie, dysgraphie et trouble de l'attention avec hyperactivité.
D'accord.
Voilà, aujourd'hui, il est en cinquième et on vient de recevoir la reconnaissance de la MDPH qui officialise tout ça.
D'accord, donc la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées.
Voilà.
D'accord. Donc maintenant que vous savez et que lui-même aussi sait ce qu'il a, il est en cinquième. Est-ce que cela veut dire que vous, en tant que maman, vous avez compris comment il fonctionne, comment il raisonne, hein, du coup, comment il apprend ? Parce que ce que vous avez dit aussi est important, c'est que c'est un enfant, comme la plupart des enfants en TDAH ou qui ont des troubles 10, qui sont intelligents, mais qui ont une autre manière de comprendre et de fonctionner, de raisonner. Et est-ce que vous, alors le diagnostic est relativement récent, est-ce que vous arrivez à comprendre comment il raisonne ?
Ça reste compliqué, il y a beaucoup de choses encore mystérieuses pour moi. En tout cas, ce diagnostic, ça a au moins légitimé notre parcours et les souffrances. Ça vient un petit peu expliquer et on comprend un peu mieux quand même tout ce qui s'est passé. Effectivement, je comprends mieux sa façon de fonctionner. J'ai beaucoup plus de patience du coup par rapport à son agitation, son manque de concentration, ça s'explique mieux pour moi. Donc oui, on comprend mieux. Après, de trouver les outils pour l'aider vraiment, ça reste pour moi compliqué.
D'accord.
Et au collège, ça reste toujours très très compliqué.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a vous en tant que parent, et du coup, dans sa scolarité, est-ce que ces diagnostics ont apporté du coup à ses professeurs ? Alors, bien sûr, au collège, il y en a plusieurs,
voilà.
Et ils changent chaque année. Donc, j'imagine qu'il faut réexpliquer à chaque fois, du coup, les difficultés, et aussi, surtout, comment l'aider, enfin, comment compenser.
Alors, il y a des aménagements qui sont nécessaires, qui sont censés être mis en place. Ça reste très compliqué parce que je pense que c'est quand même mal compris, les troubles 10 et la TDAH. Les professeurs sont submergés aussi, il y a des classes qui sont surchargées, il y a des profils très différents dans les classes. Donc on peut comprendre aussi que les enseignants, les professeurs soient pas armés pour ça. Mais du coup, concrètement, les aménagements qui sont demandés, qui sont formalisés, hein, dans des projets personnalisés, ils sont pas toujours mis en place, ils sont mis en place de façon très aléatoire, de façon très hétérogène en fonction des professeurs. Et on a quand même l'impression que quand ils mettent en place, je parle pas pour tous, hein, mais certains, ils mettent en place un aménagement, c'est comme s'ils rendaient service, ils se rendent pas compte que ça vient vraiment compenser un trouble, une vraie difficulté. Et que tout le travail qu'on demande à ces enfants-là, on leur demande une énergie folle en fait. Et que les aménagements viennent juste compenser un petit peu ça pour leur permettre de montrer de quoi ils sont capables. Mais c'est pas encore gagné.
Oui, parce que c'est vrai que en travaillant sur la préparation de cette chronique, ce que j'entendais aussi, c'est que beaucoup de ces enfants, notamment un TDAH, ils passent au début beaucoup, notamment dans le cadre scolaire, pour des enfants très agités. Et parfois même, on peut entendre l'expression de trouble du comportement. Et on va vite, du coup, sur des choses au niveau éducatif. Où on se dit, c'est un problème éducatif, il n'a pas eu assez de cadre. Enfin bon, et que fait les parents et que fait la police du coup, on a quand même beaucoup ce discours-là et avant de pouvoir penser que non, il y a des vrais troubles et du coup il y a aussi des moyens d'aménager. Voilà. Ça, les professionnels qui suivent votre fils, vous nous avez cité neuropsychologue, ergothérapeute, pédopsychiatre, ils peuvent être amenés à donner des outils justement aux enseignants ou c'est...
En tout cas, ils font des propositions, oui. À chaque fois, il y a des fiches d'aménagement. C'est écrit noir sur blanc, les aménagements nécessaires. Après, je pense que ça ne parle pas bien aux professeurs, malgré tout. Par exemple, mon fils, il a une grande difficulté. Donc la dyspraxie, c'est la motricité fine. L'écriture, pour lui, il n'y a rien d'automatisé. Nous, quand on écrit une lettre, qu'on écrit un mot, c'est automatique. Lui, alors qu'il sait très bien écrire, mais ça lui demande une énergie folle. Donc effectivement, prendre des notes en cours, c'est très compliqué. Donc certains profs vont accepter qu'ils n'en prennent pas et donner les cours
par polycopier.
Voilà. Mm-hmm. Et d'autres vont nous dire, mais enfin regardez, il sait écrire. Parce qu'effectivement, si on l'oblige pendant une heure à écrire, il va écrire. Mais au prix d'un effort qui va être 5 fois plus élevé qu'un autre. Et surtout, il ne va pas comprendre ce qu'il écrit parce que toute son énergie va être à faire des...
Le geste graphique.
Voilà. Donc il ne va pas comprendre, il ne va pas avoir la leçon correctement parce qu'il va manquer plein de mots. Donc à la maison, après, on va être en difficulté pour apprendre la leçon. Et il va perdre une énergie folle et ça va l'énerver et il va exploser derrière. Et donc, effectivement, pour les profs, c'est compliqué. Ils ne comprennent pas parce qu'il est capable. Mais à quel prix, ils ne saisissent pas.
C'est-à-dire entre la mauvaise volonté, l'interprétation de mauvaise volonté...
C'est souvent pris pour de la fainéantise et de la mauvaise volonté. Et après, c'est un cercle vicieux parce que mon fils, ça l'énerve, ça le braque. Parce qu'on ne prend pas en compte ses difficultés. Et du coup, bah, c'est que, voilà, on est dans quelque chose d'assez négatif. Mmh. Ce n'est pas le cas pour tous les professeurs. Mmh. Je ne veux pas... voilà, ils font ce qu'ils peuvent. Mais voilà, malgré les reconnaissances, malgré les diagnostics, malgré les protocoles écrits, les aménagements restent compliqués.
D'accord. Laurence, selon vous, est-ce que votre fils est en situation de handicap ?
Alors, c'est un mot qui fait peur. Mais oui, ces troubles-là sont bien reconnus comme handicap, comme tel par la loi, par la Maison départementale des personnes handicapées. Et concrètement, oui, ça impacte de façon assez difficile et douloureuse sa vie scolaire, sa vie sociale, sa relation aux autres. On vit dans une société qui est très normalisée. Donc dès qu'on sort un peu du cadre et la différence, elle est quand même très mal perçue. Mmh. C'est difficile d'être différent. Et on est tellement à être différent. Enfin, on est tous différents, mais voilà. Donc oui, ça impacte sa vie globale. Après, c'est un handicap invisible. Donc les handicaps invisibles, ils sont mal reconnus, peu reconnus. Alors en même temps, c'est vrai que c'est pas handicapant de la même façon que quelqu'un qui serait en fauteuil roulant. Mmh. C'est vrai que ce n'est pas les mêmes impacts sur la vie quotidienne, mais n'empêche que c'est des enfants qui sont différents, qui ont une façon de penser différente et qui se savent différents, qui se sentent différents. Mmh. Et c'est compliqué pour eux à vivre, je crois. Alors après, chacun est particulier. Mais...
Mmh. Oui. Et du coup, il y a un rapport au scolaire qu'on peut imaginer aussi pour votre fils qui peut être compliqué, avec en ne se sentant pas entendu ou forcément reconnu. Parce que du coup, on imagine aussi qu'en tant que parent, voilà, vous vous projetez. Bien sûr, là, c'est la scolarité. En plus, bon, l'adolescence, ça vient impacter d'autres choses. Mais aussi, on peut s'imaginer dans le monde du travail ou du coup, ce qu'il va y avoir besoin comme possibilité déjà de formation, mais aussi de travail, les adaptations...
Ah oui, c'est beaucoup de questionnements. Oui. Alors moi, on est au jour le jour. On essaie déjà de finir la cinquième sans trop de dégâts. Oui. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que c'est des enfants très intelligents. Et on ne leur permet pas de montrer leurs capacités.
Vous parliez d'aménagement au niveau des professeurs par rapport aux cours qui peuvent être polycopiés pour limiter la fatigabilité au niveau de l'écriture. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de compensation, pas forcément pour votre fils, mais peut-être que, dont vous avez entendu parler ou même auquel la MDPH peut répondre pour ces enfants qui ont un TDAH et des troubles 10
Alors, il y a beaucoup d'aménagements possibles. Donc, il y a effectivement les professeurs qui peuvent adapter les cours, les évaluations, etc. Après, il y a les moyens humains. Il peut y avoir des AESH. Mmh.
Donc des personnes accompagnant qui viennent, des élèves en situation de handicap.
Voilà, qui vont accompagner de façon individuelle les enfants dans la prise de notes ou dans la reconcentration. Donc ça, c'est des moyens possibles. Et puis il y a aussi la possibilité d'avoir du matériel informatique en cours pour éviter la prise de notes, justement.
Ah oui, et du coup, la fatigabilité due
après, matériel informatique en cours, ça veut dire des prises pas loin. Quand on est au collège et qu'on change de salle tout le temps, aussi toute une organisation, mais c'est possible, oui. Et c'est des choses qui sont importantes et qui viennent bien aider ces enfants-là, oui.
D'accord. Et c'est dans ce sens-là aussi où quand on a, du coup, notamment une dyspraxie, où du coup, il peut y avoir l'ordinateur et il peut y avoir aussi des séances d'ergothérapie, oui. C'est ce que vous disiez, notamment aussi pour apprendre à utiliser
Et oui, parce que prendre tout un cours par ordinateur pour les enfants au collège ou à l'école, il faut tout un apprentissage, il faut être rapide. Concentré aussi, donc et puis il faut des logiciels adaptés. Il existe plein de logiciels adaptés, des outils adaptés, donc c'est la prise en main de tout ça.
D'accord. Dernière question, Laurence. Donc, en tant que parent, est-ce qu'il y a, selon vous, une action, une démarche, un dispositif qui pourrait faciliter la vie de votre fils et par extension, la vôtre
Oui. je pense pas à une action particulière, mais après, je pense que tout se joue quand même, enfin, en tout cas, beaucoup se joue au niveau de l'éducation nationale. Donc, des profs, un corps éducatif mieux formé, avec des classes moins surchargées pour que les profs aient vraiment le temps d'adapter comme on leur demande. Là, concrètement, c'est compliqué. Qu'ils connaissent mieux ce que c'est, pour mieux comprendre, avoir un regard différent sur ces enfants avec ces troubles-là. Parce qu'ils sont nombreux quand même, ces enfants. Mmh. Et c'est vrai que c'est des enfants qui sont souvent, qui sont en échec. Qui ont un grand manque de confiance en eux parce qu'ils se sentent souvent en échec, en difficulté, différents. Et le regard qu'on porte sur eux, je pense à l'école, au collège, c'est essentiel. Mmh. C'est les adultes de demain, donc il faudrait pouvoir les accompagner mieux et tout le monde en tirerait les bénéfices. Donc je penserais plutôt à que ce soit des troubles et des handicaps mieux connus par le grand public aussi, parce qu'effectivement le regard qu'on porte aussi sur les parents, c'est parfois compliqué. Et puis que l'éducation nationale mette les moyens en place pour qu'on puisse les accompagner et faire en sorte qu'ils vivent une scolarité plus sereine.
D'accord. Eh bien, merci Laurence.
Merci à vous.
Du coup, cette dernière idée que vous avez, cette information des professeurs, et ça me permet de faire le lien avec l'association APEDYS 01, APEDYS 01, qui est l'association des parents, des familles, d'enfants et d'adultes qui ont des troubles 10 et un TDAH, avec ou sans hyperactivité. Cette association œuvre justement pour l'information sur ces troubles, information à destination de tous, les parents, mais aussi les enseignants, les professionnels qui veulent avoir des informations peuvent se renseigner auprès de l'APEDYS. Ils organisent des conférences, ils organisent des cafés parents. Donc je vous encourage à aller consulter leur site internet apedys01.org. Merci encore Laurence pour ce temps.
Merci pour cette émission.
Merci pour ce temps que vous nous avez accordé. Merci à Jimmy à la réalisation et merci aux jeunes qui ont pu assister à cette chronique qui sont avec nous. Bonne journée, au revoir. La voix de l'autre, à la rencontre d'une personne extraordinaire.